Prions. Seigneur, accorde-nous l'intelligence des disciples ce matin pour que nous comprenions ce que tu voudrais nous dire. Nous te bénissons déjà pour ta présence qui nous fait du bien au travers de la louange et l'adoration. Et nous voulons vraiment écouter ta parole. Merci, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Durant ces périodes de l'Avent, et nous avons eu l'occasion de rendre visite à nos amis les Juifs qui fêtaient le Hanouka. Et je n'avais pas toujours compris pourquoi, chez eux, le chandelier est à 9 branches. Alors finalement, j'ai compris pourquoi à 9 branches. Et donc, tout est tradition, et tout ça se comprend, tout est symbolique, mais tout est réalité, évidemment, dans les choses de Dieu. Donc, pendant cette période de par le monde, on voit un engouement pour les gens, pour un élément important qu'est la lumière. Est-ce que c'est à cause de ces bienfaits incontestables ou alors pour d'autres raisons? Mais en tout cas, le monde entier célèbre la lumière. Avant, ça a été une fête païenne qui célébrait le soleil. Mais il n'en demeure pas moins que, au-delà du soleil physique, il y a un soleil spirituel qui se rattache à Dieu. Selon Psaume chapitre 84, verset 12, Dieu et le soleil. La bienveillance vient de lui, celui qui est notre bouclier. Et nous voyons que toutes les créatures s'orientent vers une chose, vers le soleil. C'est le soleil qui fait croître avec sa chaleur, avec les caractéristiques physiques qui le représentent. C'est pourquoi la Bible dit que tout don parfait vient de Dieu, qui est le Père de lumière, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Cependant, la question est celle-ci. C'est un paradoxe. Les gens aiment la lumière, mais ils ne sont pas disposés à recevoir la lumière qui rentre dans les consciences. Finalement, c'est ça la raison. La lumière physique est une chose. La lumière spirituelle, c'en est une autre. Sommes-nous disposés à accueillir cette lumière? Quand Jésus était venu, il n'y avait pas de la place pour lui dans le cœur des humains. Elle se symbolisait par l'étroitesse de l'étable dans laquelle il avait été né. Mais la question aussi est celle-ci. Si nous parvenons à recevoir cette lumière spirituelle, où en sommes-nous? Prend-elle de la largeur? Gagne-t-elle en rayon? Ou demeure-t-elle ce petit lumignon qui fume? Voilà l'objet de mon message ce matin. Jésus est venu dans le monde, dans sa lumière. Et c'est dans sa lumière que nous attendons son retour. On ne va pas simplement rester dans une dimension historique de Jésus. Jésus est déjà venu. Il a accompli ce qu'il devait accomplir. Il est remonté auprès du Père. Et il va revenir. Et ça, c'est une réalité. Et c'est dans cette perspective que nous devons nous préparer. C'est bien de fêter, mais c'est mieux de se projeter aussi. Et c'est comme ça que nous pouvons nous préparer à l'avènement de notre Seigneur. Le péché a engendré les ténèbres. Et les ténèbres, ce n'est pas des lieux dépourvus de lumière seulement. Les ténèbres, c'est tout mode de vie humaine ou toute pensée qui ne prend pas sa source en Dieu. Le monde fut plongé dans les ténèbres spirituelles dès l'instant où le péché a été commis et qui a séparé Adam et Ève de Dieu. Parce que Dieu est source de lumière. Quand on se détache de lui, on est dans l'errance. On plonge dans les ténèbres des pensées. On ne parvient pas à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. On perd sa direction. Je crois que chacun d'entre nous en a fait l'expérience. Dieu envoya le prophète Ésaïe à son temps, à son peuple qui s'était montré désobéissant. Et le prophète porta le message suivant. C'est pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. Nous espérons la lumière et voici les ténèbres. Nous espérons la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long du chemin. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas des yeux. Et pourtant, celui derrière lequel nous marchons s'est déclaré être la lumière du monde. Et il dit que celui qui marche après moi ne sera pas dans les ténèbres. Ce n'est pas simplement une promesse. C'est une réalité, un fait divin. Alors on va lire quelques textes qui vont orienter cette réflexion ce matin. Je crois que des textes auxquels on n'est pas tellement habitué, mais c'est l'occasion de pouvoir visiter d'autres textes de la parole de Dieu que ceux auxquels nous sommes habitués. Nous allons lire le premier texte, c'est dans Proverbes chapitre 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Et notre texte, celui-là dans l'Épître aux Corinthiens, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de Dieu, ou les choses de l'homme, excusez-moi, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Je reprends la phrase. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Et notre texte, Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui des ténèbres. Ça, c'est 1 Jean 1,5. Il y a un autre texte que je lui ai donné, mais dont je me suis trompé de référence. Je le lis quand même. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. La venue de Jésus sur la terre est comparée au lever du soleil qui chasse l'obscurité. Car la chute de l'homme au jardin d'Éden, rappelons-le, a plongé le monde entier dans d'épaisses ténèbres morales et spirituelles. C'est à ce titre que le prophète Zacharie et tant d'autres personnages bibliques dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien utilisent cette métaphore pour résumer la double mission terrestre de Jésus. Elle concerne bien aussi l'accomplissement des promesses divines envers Israël que la rédemption en direction de l'humanité tout entière. C'est pourquoi Jésus devint la lumière du monde. Il est venu nous révéler la nature de Dieu, nous donner la lumière de Dieu, car il est écrit en lui, la parole était vie, et la vie était la lumière des hommes. Et il s'agit de la vie éternelle. Mais quelle est la nature de cette lumière, en fin de compte? Vous vous êtes posé la question? La nature de la lumière, en premier lieu, c'est de chasser les ténèbres. C'est une expérience que nous faisons tous. Et d'orienter dans la bonne direction. Comme la lumière insolite, car c'est une lumière exceptionnelle, d'une étoile, qui a guidé et conduit les marches d'Orient vers le lieu où Jésus était né. Ces mages, c'est leur métier. Ils travaillent avec les astres. Ils avaient l'habitude d'étudier les astres et de voir l'éclat des astres, à partir desquels ils peuvent tirer des pronostics. Alors on s'aperçoit que dans notre monde, à l'heure actuelle, si vous êtes un journal ou si vous êtes une presse, si vous ne parlez pas de l'horoscope, il paraît que votre journal ne serait pas acheté. On voit combien l'engouement des gens de connaître ce que les astres peuvent apporter. Mais ces mages ont l'habitude de travailler les signes zodiaques. Ils connaissent un tout petit peu le fonctionnement des astres et de leur vie. Ils n'ont jamais vu une étoile aussi brillante que celle-là. Et ils avaient compris qu'il y a un message au travers l'univers qui est adressé aux hommes. Et ils ont suivi cette étoile qui les a menés à Bethléem. La lumière vive venant de Dieu, a non seulement percé les ténèbres atmosphériques, mais Ils ont percé les ténèbres qui se sont accumulées sur les consciences et sur l'intelligence des hommes. C'est là où se trouve la bataille. Les églises dans l'histoire avaient introduit des pratiques qui n'étaient pas des pratiques bibliques, qui devaient en principe contribuer à la libération de l'être humain, ça conduit les hommes dans une conscience esclave. Et nous avons vu que dans les 16e siècle, il y avait un mouvement scientifique qui s'est manifesté en disant « c'est le siècle de la lumière », où des hommes intellectuels ont pris position contre l'Église qui était devenue obscurantiste, ce qui est vrai. Sauf qu'en voulant corriger le curseur, ils ont poussé le curseur de l'autre côté, à chassant Dieu de notre existence, sous prétexte de lumière. La lumière était ténèbre. Ce n'est pas de cette lumière qu'il s'agit. Il y a deux types de lumière. Il y a la lumière atmosphérique, que vous connaissez très bien, mais il y a la lumière spirituelle qui en a aussi deux. Une vraie et une fausse. Et c'est là dont il faut faire attention. La Bible a dit que le diable, Lucifer, qui signifie lumière, il sait se déguiser en ange de lumière. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui se réclame de la vérité n'est pas vérité. Tout ce qui se dit lumière n'est pas lumière. Et nous avons la vraie lumière qui est Jésus, qui est rattachée à la présence de Dieu. Alors, la lumière vive venant de Dieu a percé non seulement l'atmosphère, mais a effectué une percée dans notre conscience pour révéler quel est l'état de l'être humain. Et c'est à ce niveau qu'on fait le point. L'éveil se fait. Qui suis-je devant Dieu? Ce qui m'obligerait à prendre position, à m'ajuster à la volonté de Dieu. Voilà le but de la lumière. Mais lorsque la lumière est venue, elle a provoqué des réactions. Au désarroi du jeune Joseph qui croyait être trompé par Marie, l'ange Gabriel est parvenu à dissiper son inquiétude en lui annonçant que sa fiancée n'est coupable que de son obéissance à Dieu. Et il ne l'a pas trompée. Elle a été entre les mains du Seigneur un instrument. C'est un fait divin. Et l'Esprit de Dieu a apaisé le cœur de Joseph pour que lui, à son tour, il puisse prendre au sérieux la mission qui est la sienne, celle d'encadrer cet enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. En revanche, à la joie des anges, fait écho la colère démoniaque de Hérode. Vous savez que Hérode, il n'est pas de la race juive, il est édomite. Et la tribu de Édom, c'est une tribu qui est hostile à Israël. Et donc, lui, ici, il est le symbole du diable qui usurpe l'autorité. Et poussé par le syndrome d'usurpateur, qui craint de perdre son trône, il va envoyer une escouade pour tuer tous les enfants de moins de 2 ans, histoire de sauver son trône. Et nous pouvons en ajouter les listes des autres qui ont réagi face à cette lumière. De toutes ces émotions qu'a provoqué dans le cœur du peuple la naissance de Jésus, je voudrais que vous examiniez avec moi au moins 3. L'indifférence, le rejet et l'acceptation. L'indifférence. Il y a des gens dans notre société ou dans notre entourage qui ne se laissent émouvoir par rien. Ils sont de marbre. Leur arracher un sourire, c'est difficile. Même des pleurs, on se demande s'ils sont disposés de sensibilité ou pas. Il y a des gens comme ça. Parfois, il y en a d'autres qui sont devenus parce qu'ils ont encaissé des coups dans la vie, que parfois leur émotion est complètement anesthésiée, cautérisée, pour se protéger. Ils mettent une sorte de barrière contre tout ce qu'ils attendent. L'émotion, elle est divine. Jésus a exprimé l'émotion. Il a chanté avec ses disciples. Alors, quand j'ai vu le chant les danses des Juifs, là, ça y va, hein, c'est de l'énergie. Alors j'ai imaginé, je me disais à ma femme, je dis que voilà, c'est ce type de chant-là que Jésus chantait avec ses disciples-là. Ah, j'aurais imaginé voir Jésus en train de gambader avec tous ces rythmes-là. Jésus a pleuré. Il s'est mis en colère. Et donc l'émotion, on voit que l'émotion, elle est humaine. On ne peut pas être indifférent. Et donc, il y a des gens qui sont comme ça, difficiles à mouvoir. Peu importe ce que vous leur fassiez. Ils restent de marbre devant une naissance, ils restent de marbre devant un mariage, un décès. Bouge pas. Et Jésus va le constater. C'est les Juifs. Et il va résumer cette indifférence à laquelle elle a été confrontée, qu'il est tenu en termes suivants. Il a dit que nous avons joué de la flûte. Quand on joue de la flûte, c'est de la mélodie, non? Ça doit vous faire danser. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations au lieu de pleurer avec nous, vous n'avez pas pleuré. Jésus l'a constaté. L'indifférence. Et nous vivons un monde où l'indifférence commence à prendre une proportion inquiétante, très alarmante. Souvent, quand je fais des réseaux sociaux, je vois des événements insolites qui se produisent, ou quelqu'un qui se fait attaquer, ou une femme qui se fait molester, mais il y a du monde qui est là, qui regarde. Et il y en a d'autres qui sortent leur smartphone pour filmer. Mais allez au secours! Mais quelle indifférence! Les animaux sont capables d'aider leurs congénères, mais les êtres humains, parfois dans des situations, ils ne peuvent même pas lever un bout de doigt. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, enfants de Dieu. Parce que nous devons être le reflet de la grandeur de Dieu. Voilà ce manque, cet handicap, cette infirmité qui frappe notre personnalité dans ces temps-là que la lumière est venue pour rétablir. Parce que la lumière réchauffe ce qui est refroidi. Si notre amour est refroidi, la chaleur de Dieu dans sa lumière vient pour redonner de la nuance, de la sensibilité et de la teneur. Quand on est indifférent à tel point, c'est qu'on est malade. Ça, c'est l'expression d'une âme malade qui nécessite des soins. Et c'est au contact de la parole de Dieu que les choses reprennent. Le deuxième sentiment, c'est le rejet. Certains, viscéralement, n'aimaient pas Jésus. Ah oui. Et en le repoussant, il rejette sa lumière. En rejetant la lumière de Dieu, de Jésus, il rejette la lumière de Dieu. Mais la question qui vient inévitablement est celle-ci. Pour quelle raison? Pourquoi? La réponse est simple. Parce qu'ils veulent continuer à vivre selon leurs propres désirs, leur propre manière de vivre, et non pas selon les enseignements de Jésus. Parce que les enseignements de Jésus les dérangent. Leur conscience est captive des puissances des ténèbres. Ils ont été reformatés à la sensibilité de leur nouveau maître, qui est l'ennemi. Et qui aime que tout ce qui est sombre, qui aime faire les choses dans les ténèbres. Les mauvaises choses ne se font pas le jour. Hein. On entend la nuit pour exécuter ses forfaits. C'est pour ça que Jésus leur a dit, vous ne voulez pas m'écouter parce que vos œuvres sont mauvaises. Écoutez, c'est entre nous. Hein. Moi, j'ai 35 ans de ministère. Et parfois, nous observons de la visage des gens comment le message passe ou le message ne passe pas. Ou le message est rejeté ou le message ne l'est pas. On le voit. L'œil de l'être humain est le miroir de son âme. Et au temps de Jésus, les gens étaient en colère. On cherchait à le tuer. Il n'a rien commis de mal. Il vient juste pour leur montrer la lumière pour les sortir de la captivité. Ça y est. Il est coupable. Il faut l'éliminer. Le rejet. Et nous le voyons dans notre société. On rejette Dieu, on rejette sa pensée, on rejette sa parole. Et vous voyez là où la société nous amène maintenant? J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas que les parents puissent avoir de l'influence sur leurs enfants, qu'on laisse nous nous en occuper. Et je m'aperçois qu'il y avait un événement qui s'était produit pas plus tard que 2 mois ou 3 mois. On est obligé de dire qu'il faut bien que les parents reprennent leur place de parents. Dieu ne l'a pas dit là. On aurait gagné du temps. La lumière de Dieu vient pour soulever les différentes couches du vieux moi qui se tapisse au fond de notre conscience comme un voile épais qui empêche la lumière de pénétrer dans le recoin de notre être. La personnalité de l'être humain est composée à la fois des montagnes et des vallées. Les montagnes, c'est l'orgueil qui apparaît, mais les vallées, on ne les voit pas. C'est le retranchement de notre être dans lequel l'ennemi se retranche. Il se cache. Mais la lumière de Dieu a besoin de rentrer là-bas pour aller fouiller, pour que nous soyons libres. Voilà le but. Parce que Jésus, qui est lumière, veut faire de nous des lumières comme lui. Et nous serons le relais de la lumière que quand les ténèbres en nous seront dissipées. Et c'est ce qu'on appelle les forteresses. C'est le combat contre laquelle Jésus, c'est le combat que Jésus menait contre ces forteresses de contre-vérité. Et à l'époque des Juifs, la forteresse de la religiosité, ils pensaient être dans le vrai, mais ils étaient dans le faux. Car eux, vivre dans les ténèbres ne les dérange pas. Ils ne savent pas accepter la lumière. Ils ne le peuvent pas. Ils en sont incapables, parce qu'esclaves des ténèbres. Ce qui vaudra la haine contre Jésus. Jean le Baptiste en a fait les tristes frais. Étienne, Pierre, Jacques, le demi-frère de Jésus, et bien d'autres martyrs. Ils se sont retrouvés décapités parce qu'ils disent la vérité. Et la vérité dérange. Les gens qui chérissent les ténèbres de mensonges se montrent parfois très furieux contre la vérité. La vérité à salut brûle leur conscience comme un jugement. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui m'accepte est sorti du jugement. Mais ceux qui refusent ma lumière, ils sont déjà condamnés. Alors c'est à nous d'accepter Christ et de laisser prospérer cette lumière en nous, en ôtant tout ce qui est comme voile, qui empêche que la lumière atteigne son but. Alors j'en arrive au point qui nous intéresse tous, l'acceptation. La conscience de l'homme qui est profondément plongée dans les ténèbres est à la quête de la lumière. Elle a besoin d'être éclairée. Elle a besoin de connaître la délivrance. Mais pas par la lumière des hommes. Vous savez, quand je parle de mot lumière, je revois un tout petit peu certaines matières académiques ou à l'école. Il y en a d'autres qui comprennent bien les mathématiques. On dit que « Ah, je vois hein ». On dit ça, non ?« Ah, je vois clair dans les maths ». Ou « Je vois clair dans telle matière ». Voir clair signifie que j'ai compris le mécanisme et les tenants et les aboutissants de la problématique. Et donc, dans les choses de l'esprit, c'est pareil. Nous appartenons à Dieu. Le monde de lumière est ce monde à lui. Il nous invite à accéder à ce monde de lumière. Et c'est par lui que nous pouvons voir la lumière, dit le psaume. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et donc, il faut la lumière de Dieu pour éclairer notre conscience. D'où le cri de l'apôtre Paul. Je prie pour que les yeux de vos cœurs s'ouvrent afin que vous discerniez quelle est la connaissance, la grâce, les immenses richesses qui résident dans le trésor de Jésus. N'est-ce pas merveilleux? les yeux du cœur. Que le Seigneur ouvre nos yeux, mes bien-aimés. Et ça, Dieu va utiliser un élément pour que cette lumière jaillisse en nous. Alors, il m'arrive parfois de prendre des images de la vie triviale de tous les jours, comme ça vous comprenez mieux. Dieu, il est esprit, grand E. Et l'homme est fait du corps, de l'âme et de l'esprit, petit E. Pour que nous puissions avoir la lumière du grand E, il faut bien que le petit E et le grand E se rejoignent. On appelle ça la nouvelle naissance. Quand quelqu'un est uni à Christ, il a l'esprit de Christ. Et la lumière de Dieu jaillit en lui. Et il commence à faire le travail de tri. Et si aujourd'hui j'ai la lumière de Dieu à 15%, il faudra que demain je l'ai à 30%. Et c'est ainsi que progressivement, je tends vers la glorification. Sauf que dans la plupart des gens, ils ont 15% de lumière de Dieu. Demain, ils en sont à 10%. Parce que le monde les envahit. Ils acceptent les choses qui ne sont pas acceptables. C'est pourquoi la Bible a dit dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 35, « Vous avez reçu la lumière de Dieu, veillez à ce que la lumière qui est en vous ne soit ténèbre. » C'est qu'il y a un danger. La lumière que Christ nous donne est combattue. Quand le diable s'acharne contre vous, c'est pour détruire cette lumière. Et nous devons le protéger. Quand le vent souffle fort pour éteindre la lumière, il faut le protéger dans un bocal. Et ce bocal, c'est notre être. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Les temps qui courent, l'ennemi sait que ces jours sont comptés. Tous les événements que nous voyons dans le monde, notre pensée est en train de nous dire que mais la Bible a toujours prévu ça depuis longtemps. Ça fait 2000 ans que nous vivons ce genre de choses. Certes, c'est vrai. Mais sauf que les événements que nous vivons à l'heure actuelle arrivent à une fréquence rapprochée. C'est pour dire qu'on tend vers la fin. Posséder la lumière du Christ est plus que posséder une connaissance. Ce n'est pas une puissance de volonté. C'est plus que cela. Ce n'est pas connaître que le Jésus historique. C'est plus que cela. C'est être imprégné de sa parole. Gardez vos lampes allumées. Un chant comme ça. Gardez vos lampes allumées. Et je crois que c'est le prochain message. Quelles sont les conditions pour être élevé ou pour être enlevé avec le Seigneur? Trois conditions. Dont avoir la lampe allumée. Les circonstances de notre vie, je termine, sont de nature à éclipser l'acuité de cette vérité. Nous sommes invités à nous rappeler cette vérité afin de maintenir éveillée notre conscience, nous qui avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Plus encore, dans la traversée de ce monde, caractérisé par le chaos, des pertes et des régressions de valeurs, vous le voyez avec moi, caractérisé par des désastres de tout genre, les guerres, les famines, les persécutions, les violences de toutes sortes, et surtout la mise à l'écart de tout ce qui se rattache à Dieu et à sa parole, et le mépris de l'Église. Nous sommes impérativement invités à nous construire une discipline, celle de garder la lumière de Christ allumée en nous. Cette discipline, dans un de ses aspects, comme des disciples de Christ, consiste à écouter sans écouter le monde, consiste à voir sans voir. Parce que la Bible dit dans le livre de Ésaïe, qui sont mes disciples? C'est celui qui a les yeux ouverts mais qui ne voit pas. C'est celui qui a les oreilles mais qui n'entendent pas. N'entendent pas quoi? Qui n'entendent pas le bruit du monde mais qui entendent le bruit du Seigneur. Son oreille est exercée à écouter la voix de Dieu. Ses yeux sont éduqués à ne pas voir ce qui est en dehors de la volonté du Seigneur, mais au-delà du voile des circonstances, ils savent décoder le langage de Dieu. À attendre dans sa lumière bénie le retour glorieux de notre Seigneur. C'est là notre attente. Nous attendons le Seigneur avec impatience. Il a promis de revenir chercher son Église dont nous faisons partie. C'est pourquoi il a dit, ainsi, autrefois en effet vous étiez des ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors, je termine avec ces quelques mots d'exhortation. C'est l'application. Nous n'avons pas été sauvés pour continuer à vivre selon nos anciens désirs ou selon notre ancienne volonté. Nous sommes désormais la propriété du Seigneur et nous devrions nous abandonner à lui sans réserve. Parce que le salut que Jésus nous a offert n'a pas été à 90%. Il s'est donné entièrement. Et si nous nous donnons entièrement à lui, c'est lui qui fera le travail de nous maintenir éveillés. Nous sommes interpellés au cours de cette semaine de l'Avent à faire le point sur tout. Sur tout ce qui bloque notre progression. Tout ce qui nous enferme. Faire le point sur tout ce qui nous attriste. Tout ce qui nous empêche de contempler le vrai visage du Seigneur. Et faire le point également sur nos sécheresses. Sécheresses spirituelles. Tout ce qui nous sépare de Dieu. Faire le point. Parfois, dans une marche, c'est nécessaire de s'arrêter, de se laver les pieds pour repartir de bons pieds encore. Faire le point aussi tout ce qui divise. Et parfois, on est écartelé entre deux tendances. À notre niveau individuel, c'est un champ de bataille, là. On a envie d'aimer le Seigneur, mais on sait qu'il y a d'autres priorités. Il faut remettre les priorités. Alors nous devons rester attachés à la parole du Seigneur. Entretenir notre relation avec le Christ. Renouveler notre engagement à terminer la course à ses côtés. C'est le moment plus que jamais de rester attaché fermement à la parole de Dieu. À la lumière de l'amour du Seigneur. Et nous devons chercher à être plus proche du Seigneur chaque jour. Chaque jour, plus proche du Seigneur. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est notre défi. Demain, ce serait demain. Et cette bataille, nous devons le mener chaque jour. Parce que vous ne savez pas l'heure à laquelle le Seigneur va venir. Hein? Moi non plus. Mais il ne nous a pas laissés sans indice. Non. En tant qu'enfant de Dieu, il ne nous a pas laissés sans indice. Il a dit que quand vous voyez ces choses-là, attention. Et nous devons avoir les regards prophétiques pour regarder les événements du monde à la lumière de la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Merci pour votre courage ce matin, parce que le temps n'est pas prêté à se lever, mais vous vous êtes fait violence pour venir auprès du Seigneur. Et que le Seigneur vous renouvelle de l'intérieur. Que toutes ces feuilles mortes en nous, qui sont les feuilles mortes de la vieille nature, qu'elles soient complètement calcinées par le feu du Saint-Esprit, par le feu de Dieu, feu de la vérité. Et nous serons le reflet de la gloire du Seigneur. Et nous jouerons notre rôle, lumière du monde. Pas la lumière de l'Église, Le chrétien n'est pas la lumière de l'Église. Le chrétien est la lumière du monde. Je vous invite à la prière. Seigneur, de l'indifférence, du rejet, donne-nous d'accepter ta présence en nous et de te laisser la possibilité de rayonner. Tu n'allumes pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Et la Bible dit que tu n'éteins pas le lumion qui fume. Tu ne brises pas le roseau cassé. Mais tu y mets de l'huile afin qu'il produise encore davantage. Ma prière pour mes bien-aimés, moi-même ce matin, Seigneur, davantage de ta lumière, davantage de ta présence, davantage de toi, afin que tu éclaires nos cœurs. Donne-nous avec la lumière de Christ de nous regarder, de confronter résolument nos propres ombres, nos propres défauts. C'est un passage obligé, afin que ta vie vienne avec abondance et que ta présence nous revête de ta protection. Merci Père, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen.